Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La frontière entre la Syrie et la Jordanie est officiellement fermée depuis bientôt 3 ans. Les populations locales, et notamment les commerçants, en savent quelque chose. Et côté syrien, plusieurs milliers de réfugiés attendent leur tour pour un passage au compte-gouttes. Néanmoins, quelques points de passage non officiels subsistent, essentiellement pour des combattants rebelles opposés au régime syrien, sélectionnés par la coalition anti-Assad et qui utilisent la Jordanie comme une base arrière. Raconter Jérusalem autrement, c'est le défi que tente de relever une 50aine de chercheurs en puisant dans les archives d'une 10aine de pays. Open Jérusalem est dirigé par un historien que Muriel Paradon a rencontré pour nous dans la Ville Sainte. À suivre encore, la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Difficile de commercer lorsque l'on habite à Dera en Syrie ou Irbid en Jordanie. Difficile aussi pour les Syriens qui fuient la guerre civile de se réfugier chez le voisin du Sud. Entre 15 et 20 000 attendent une hypothétique autorisation de passage. La frontière entre les deux pays est officiellement fermée depuis plus de 2 ans. Mais pas forcément pour tout le monde, comme nous l'explique Cyril Roussel, géographe, chargé de recherche au CNRS, qui était longtemps en poste à l'Institut français du Proche-Orient, à Damas, puis à Amman.
Alors c'est une frontière qui est fermée depuis mai 2013. Elle est fermée en fait en réalité sur son segment entre Israël, entre la limite du Golan occupé et la province de Souaïda. Il reste un point de passage qui est officieux, qui se trouve assez loin dans le désert, donc dans la province de Homs, et qui est pas très loin finalement de la frontière avec l'Irak. Et c'est le seul point encore où des réfugiés syriens peuvent passer. Alors c'est vraiment au compte-gouttes hein, depuis 2 ans, avec même d'ailleurs des incitations pour les empêcher de passer. On doit être à quelques familles par jour, peut-être 10, 20 personnes au maximum, alors qu'on était quand même à 5, 6, 8 000 à l'époque, fin 2012 et début 2013, par tous les petits passages qui s'étaient constitués entre la province de Dera et le nord de la Jordanie.
Alors, frontière fermée pour les populations, mais elle ne serait-elle pas ouverte pour d'autres usages ?
Alors voilà tout l'intérêt, effectivement, c'est qu'on a une frontière qui reste ouverte, évidemment sous contrôle des services de sécurité jordaniens, et qui reste ouverte à l'acheminement des armes pour les rebelles du Front Sud, qui est donc une coalition d'une 50aine de groupes rebelles qui opère dans la province de Dara. Et elle est ouverte donc également pour ses combattants, enfin en tout cas une partie. Et donc ce sont des gens qui sont bien sélectionnés par les chefs de Katiba, que l'on envoie en Jordanie et qui en général restent une 15aine de jours dans un endroit tenu complètement secret et qui reçoivent une formation militaire avant de repartir sur le terrain.
Cela veut dire que la Jordanie est une base arrière pour ces combattants qui sont anti-Bachar al-Assad.
Exactement. Alors on parle beaucoup plus effectivement de la Turquie, mais la Jordanie, elle, n'en parle peu. Hein. C'est même un non-dit d'ailleurs, puisqu'en Jordanie, je vous défie de trouver une quelconque mention dans les journaux. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment tenu secret, même si on le sait maintenant. Et effectivement, la Jordanie est devenue une passerelle, en fait, une base arrière, mais plus, je dirais, une passerelle, parce que, en plus des combattants, on a également une aide des pays du Golfe hein, qui utilisent la Jordanie pour financer et donc payer toute cette formation. Les États-Unis, disons, s'occupent de la partie gestion, mais le financement vient du Golfe, notamment de l'Arabie Saoudite.
Mais les combattants qui viennent en Jordanie, ce sont avant tout des combattants syriens, ce ne sont pas des combattants étrangers.
Non, ce sont des combattants syriens, souvent des locaux hein, de la région du Oran. Et l'idée est en fait d'essayer de mettre en place une armée syrienne libre, entre guillemets, qu'on pourrait appeler nouvelle génération, c'est-à-dire qui prendrait une certaine distance vis-à-vis des groupes plus extrémistes, comme le Jabhat al-Nusra, qui est effectivement très présent dans le sud. Après, où est la limite ? C'est bien là la grande question que les alliés se posent.
Et alors, pour la Jordanie, c'est un paradoxe, car longtemps, le pouvoir jordanien a été plutôt bienveillant vis-à-vis du pouvoir de Damas.
Alors tout à fait, je tiens quand même aussi à signaler qu'il y a toujours l'ambassade de Syrie à Amman. Donc les relations ne sont pas coupées. Mais la Jordanie est obligée de jouer sur deux fronts. Elle n'a pas les coudées franches. Elle est obligée de répondre aux injonctions de ses alliés, qui sont ses alliés stratégiques, le Golfe et les États-Unis, et en même temps d'essayer de maintenir une profondeur économique avec son grand voisin du Nord qui l'ont approvisionné longtemps en électricité, en eau et en produits agricoles. Et c'est aussi surtout la route vers la Turquie et les ports du Liban. Mais malheureusement pour le royaume, elle est coupée, cette route, depuis le 1er avril 2015.
Donc la frontière est une frontière à géométrie variable, peut-on dire ?
Elle évolue et elle évoluera au gré des injonctions de ses alliés, des alliances, en tout cas des rapports de force régionaux qui alimenteront ou pas certains acteurs locaux dans la région. Et la frontière sera effectivement au milieu, hein, prise en sandwich entre ces puissances régionales, les superpuissances et les acteurs locaux qui s'entre-déchirent, avec évidemment aussi comme enjeu bien le fait de pouvoir se replier en Jordanie et avoir le financement et l'aide des pays occidentaux.
Et pour les populations locales, notamment en Jordanie, le fait de ne plus pouvoir ou très peu commercer, cela a un impact ?
Énorme impact, notamment dans les villes de la frontière comme Ramsa, où jusqu'en 2011, on avait une concentration d'entrepreneurs qui faisaient de l'import-export, pas seulement vers la Jordanie, mais qui réexportaient vers l'Égypte, vers le Golfe, des produits qui venaient du Liban, de Syrie, de Turquie. Et donc toute cette activité, évidemment, maintenant a complètement périclité. Je prends juste un exemple. Il fallait 2-3 jours avant pour acheminer des produits des ports de Tartous ou de Latakié vers l'Égypte. Maintenant, pour faire venir des produits en Jordanie, il faut les faire passer en container jusqu'à Aqaba, donc faire tout le tour par Suez. Ça coûte 4 fois plus cher et ça met un mois.
Donc les populations sont finalement victimes de cette diplomatie internationale.
Tout à fait, bien sûr, c'est toujours le cas. On a les victimes syriennes du conflit, on a aussi, sur un autre registre, les victimes économiques jordaniennes, bien sûr, du conflit qui se passe de l'autre côté de la frontière. Il faut juste aussi rappeler que ces familles qui commerçaient étaient généralement des représentants de grandes familles qui ont été d'ailleurs coupées par cette frontière mise en place. Évidemment, on parle beaucoup de cette époque de Sykes-Picot, mais on est dans une... Le Oran se poursuit naturellement, physiquement et culturellement en Jordanie. Donc on commerçait, quand on était un commerçant à Ramsa, on commerçait avec un ancien cousin ou quelqu'un qui appartenait à la grande famille élargie à Dara et qui avait lui des connexions bien plus loin dans les grandes villes syriennes. Donc c'est aussi tout cela qui s'est coupé. C'est la possibilité aussi d'aller de l'autre côté, de rendre visite à sa famille, de commercer. Donc c'est toute une coupure de la circulation qu'il faut bien avoir en tête.
Alors, vous n'avez pas abordé la question de la frontière avec l'Irak, il y a une petite partie. Est-ce que là aussi, il y a un problème du même genre ?
Non, parce qu'on est dans une zone, effectivement, qui est complètement désertique. Juste, il suffit de prendre une carte. La population jordanienne se répartit plutôt du côté ouest. Sur la frontière irakienne, aucune possibilité, à part des centres de contrôle de l'armée, mais on a très peu de villages, on n'a pas d'agriculture. Et là, on est vraiment sur une route de passage, un lieu de transit. Donc, on n'a pas du tout, effectivement, les mêmes problématiques, en tout cas au niveau des répercussions sur les populations locales jordaniennes.
Cyril Roussel, géographe spécialiste de la question des frontières au Moyen-Orient. Chercheurs de plusieurs nationalités explorent actuellement une dizaine de pays pour découvrir ou redécouvrir des archives sur la ville de Jérusalem. Un grand projet baptisé Open Jérusalem qui a pour but de raconter d'une manière différente l'histoire de la ville sainte de 1840 à 1940, période de grands changements. Ce travail titanesque a commencé en 2014 et doit s'achever en 2019. Muriel Paradon a rencontré à Jérusalem, pour Orient Hebdo, le directeur du projet, l'historien français Vincent Lemire.
L'idée est très simple, en fait. On part du constat que depuis toujours, les historiens de Jérusalem travaillent chacun dans leur niche documentaire et linguistique. Les Grecs travaillent sur les Grecs, les Arméniens sur les Arméniens, les Juifs séfarades sur les séfarades, etc., etc. Et donc, la production historiographique, en fait, s'en ressent. Et on a des monographies sur toutes les communautés de Jérusalem. Mais en plus, le contexte géopolitique local accentue tout ça. Et ça fait qu'en fait, on manque d'une histoire globale de la ville de Jérusalem. Donc on est parti de ce constat très simple et on a rassemblé une équipe d'une cinquantaine de chercheurs, une équipe internationale, dans laquelle il y a des Russes, des Grecs, des Arméniens, des Italiens, des Palestiniens. Et on essaye en fait de repérer la totalité des archives disponibles sur l'histoire de Jérusalem entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. On essaie donc de les repérer, puis on essaie de les décrire. Et on essaye enfin, troisièmement, de les interconnecter, c'est-à-dire de créer des outils techniques hein, qui font qu'un historien qui va s'intéresser, par exemple, à la révolution de 1908 à Jérusalem, il va trouver tous les documents datant de juillet-août 1908 dans toutes les langues, avec le même moteur de recherche.
Alors vous avez choisi une période déterminée, 1840-1940, pourquoi cette période ?
En fait, l'idée, c'est de revaloriser un peu cette période de l'histoire de Jérusalem, qui a été un petit peu oubliée, parce que c'est vrai qu'on publie énormément, en gros, sur les époques bibliques, on publie énormément sur les croisades, on publie énormément sur le conflit israélo-arabe. Et on publie beaucoup moins sur la fin de la période ottomane, notamment. Et en fait, les années, des années 1850, 1920, 1930 à Jérusalem sont passionnantes parce que c'est un moment de modernisation. La ville s'organise différemment. Par exemple, on crée un conseil municipal mixte à Jérusalem, dans lequel toutes les communautés sont représentées. Cette municipalité, elle existe des années 1860 aux années 1930. En 1934, la situation géopolitique fait que le conseil municipal se scinde en deux, avec d'un côté les élus arabes, musulmans et chrétiens, et de l'autre côté les élus juifs. Donc on voit bien que cette période-là, c'est ce que j'ai appelé l'âge des possibles de Jérusalem, c'est un moment où la citadinité, c'est-à-dire les liens entre les habitants de Jérusalem, étaient fort différents de ceux d'aujourd'hui. Voilà, cette équipe d'historiens pense que c'est important de rappeler cette histoire, en particulier aujourd'hui.
Est-ce que justement, de travailler sur cette période en particulier, ça peut apporter un éclairage peut-être nouveau sur la période actuelle au Proche-Orient ?
Bah, par contraste, oui, ça certainement. Et en même temps, aussi peut-être ça peut donner un horizon. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que la seule perspective possible, c'est Jérusalem capitale pour deux États. Et tout le monde se torture l'esprit pour savoir s'il va falloir refaire une ligne de partition, par où elle passerait. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a des quartiers juifs de colonisation assez loin à l'est de cette ligne, etc. Et donc, finalement, la solution d'une municipalité partagée pourrait être une solution qui ferait que Jérusalem serait une capitale pour deux États. Si une municipalité véritablement mixte, véritablement représentative des intérêts de tous les habitants de Jérusalem pouvaient se mettre en place, on imagine que ça pourrait être un petit morceau de la solution globale du conflit israélo-arabe et en particulier de la question de Jérusalem.
Le projet donc a déjà commencé en 2014. Est-ce qu'il y a déjà des découvertes, des pépites que vous avez sorties des archives qui vous ont marqué ?
Oui, là par exemple on est en train de publier un manuscrit totalement inédit, écrit par un moine éthiopien en 1890, qui raconte très précisément l'histoire de l'installation du fameux monastère éthiopien, vous savez, sur le toit du Saint-Sépulcre, que tous les touristes découvrent avec délice quand ils viennent à Jérusalem. C'est un exemple. Un autre exemple, on est en train de publier la totalité des délibérations du conseil municipal de la ville de Jérusalem des années 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est entièrement inédit. C'est en arabe et en ottoman, et ça décrit justement l'histoire de cette fameuse municipalité mixte de Jérusalem pendant 25 ans. On met au jour des documents, et selon leur importance, on décide de modes de valorisation, soit des traductions in extenso, soit des articles, soit des descriptions. Voilà.
Ce travail qui va donc durer 5 ans au total, il est à destination des chercheurs ou aussi du grand public ?
On doit s'adresser au public, en particulier quand on parle de Jérusalem, qui est un sujet de débat public. Donc on a toute une politique, toute une stratégie de ce côté-là. On a une page Facebook qui est assez active, on a un compte Twitter, on a un site internet qui est très vivant, dans lequel on raconte le projet de façon vivante, où est-ce qu'on va, comment on y va, qui on rencontre. On fait des conférences, on fait de la valorisation. Pour vous tout vous dire, on a même un projet de bande dessinée d'histoire de Jérusalem sur cette date-là. Donc on n'a aucune limite, on veut à la fois être extrêmement rigoureux et au plus haut standard au niveau scientifique, et en même temps vraiment assumer cette vocation d'histoire publique de Jérusalem.
Vincent Lemire, historien à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, auteur de Jérusalem 1900 aux éditions Armand Collin. Plus d'informations sur le site internet du projet www.openjlem.hypothèse.org.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la tension entre Rome et Le Caire après la découverte du cadavre d'un étudiant italien fait la une de la presse égyptienne.
Oui, il s'agit d'un doctorant italien, Giulio Regeni, qui avait disparu le 25 janvier, la date anniversaire de la révolution contre Hosni Moubarak, et qui a été retrouvé mort près de l'autoroute Caire-Alexandrie 10 jours plus tard. Alors la presse souligne le rapport du procureur selon lequel le jeune Italien de 28 ans a été longuement torturé avant de mourir. Pour Al-Masri Lyoum, ce drame risque de se traduire par de lourdes pertes économiques pour l'Égypte. L'Italie est en effet l'un des principaux partenaires économiques de l'Égypte et s'apprêtait à investir 12 milliards de dollars pour le développement du plus important champ gazier découvert en Méditerranée. L'occasion pour le journal indépendant Al-Maqal de s'en prendre aux forces de sécurité qui, selon l'éditorialiste, sont au moins coupable de négligence et d'incompétence.
Ce qui fait la une de la presse israélienne, Michel Paul, ce sont encore et toujours les questions de sécurité intérieure.
Toujours l'intifada, la vague de violence de ces derniers mois qui continue à faire les titres. De nombreux commentaires sur l'attentat de la porte de Damas cette semaine. 3 Palestiniens abattus lors d'une vérification d'identité, une garde frontière tuée lors de l'incident. Un pas de plus a été franchi, estime à l'unanimité les commentateurs. Il s'agissait d'un acte soigneusement planifié. Les 3 Palestiniens portaient des armes automatiques et des charges explosives. Eric, 2 sujets en particulier figurent en manchette. La rencontre du président palestinien avec les familles de Palestiniens tués lors d'attentats anti-israéliens. Et la presse s'en prend tout spécialement à des députés israéliens qui ont eux aussi rencontré ces familles. Ces députés affirment Yediot Aharonot n'ont pas de limite. Israël Hayom, le journal proche du pouvoir, va plus loin et parle du toupet des députés palestiniens. Et puis Haaretz révèle que le gouvernement israélien envisage de confisquer les économies des auteurs d'attentats. Totalement illégal, préviennent des juristes.
Michel, il est aussi beaucoup question des tunnels creusés à Gaza.
Un sujet qui inquiète les Israéliens, à la fois ceux qui vivent à la lisière de la bande de Gaza, mais aussi ceux qui habitent le long de la frontière avec le Liban, où il y a aussi des tunnels. Le fiasco des tunnels, titre un quotidien. Un autre journal qualifie la publication d'un rapport sur ces tunnels d'opportunistes et de populistes. La question que se posent les chroniqueurs, les tunnels offensifs du Hamas débouchent-ils déjà du côté israélien de la frontière ? Question de temps, estiment-ils dans la majorité, et ils appellent le gouvernement à trouver une solution technologique à ce problème.
Le musée de Taiz au Yémen a été détruit, c'est en tout cas Alexandre ce qu'annonce le journal Al-Sharq Al-Awsat.
Oui, tout à fait, un journal qui précise que tous les trésors du musée ont été détruits ou brûlés par les rebelles houthis. La ville de Taiz, qui est située au sud-ouest du Yémen, est le terrain de violents combats entre la rébellion houthi et les forces loyalistes qui sont soutenues par la coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite. Mais pour des observateurs, si le musée a été incontestablement détruit, il est difficile, dans la confusion des bombardements aveugles au Yémen, de savoir qui est vraiment responsable de la catastrophe culturelle, les rebelles houthis ou la coalition qui les combat.
Michel, la presse israélienne se mobilise, elle, contre le boycott anti-israélien.
C'est notamment le cas de Yediot Aharonot qui organise un congrès consacré à la lutte contre le boycottage des produits israéliens, orchestré notamment par l'organisation BDS, un mouvement, estime le journal, qui va en s'affermissant. Mais tout n'est pas encore joué, souligne l'auteur de l'article, et le quotidien appelle ses lecteurs à participer activement à cette campagne.
Et votre photo du jour, Michel ?
Eh bien, c'est la photo de Moshe Ivgi, probablement le plus connu des acteurs israéliens. 8 femmes l'accusent de harcèlement sexuel, mais sans porter plainte contre lui. Un phénomène de plus en plus répandu en Israël. Un ministre et un député ont été contraints de démissionner récemment dans des circonstances similaires, avant que la police ne donne suite à ces plaintes.
Merci Michel, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission et retrouver sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite un nouveau journal sur RFI.